5, 4, 3, 2, 1.
Radio Cactus. L'invité.
C'était Cotton Eye Joe de Regnes. Vous êtes avec Mike Alex sur Radio Cactus et aujourd'hui nous accueillons en studio un célèbre journaliste sportif de la RTS en la personne de Bernard Jonzier. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Alors déjà bienvenue dans notre studio et merci de vous être déplacé pour nous.
Mais c'est un plaisir.
Chers auditeurs, nous vous rappelons que vous pouvez réagir à cette interview en envoyant vos questions par WhatsApp au 078 748 18 91. Je répète une deuxième fois, 078 748 18 91. Monsieur Jonzier, pour commencer, pouvez-vous vous présenter en quelques mots?
Je suis depuis 6 ans à la retraite. J'ai toujours été actif dans le domaine du sport et je suis quelqu'un de, en général, curieux de tout. Donc c'est une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de faire ce métier de journaliste.
À quel âge avez-vous commencé le journalisme?
Alors j'ai commencé pendant 7 ans, j'étais indépendant. J'ai commencé à 25 ans, 26 ans. Je le faisais un petit peu en dilettante et j'étais ce qu'on appelle à l'époque un routard. Je travaillais à peu près 6 mois et je voyageais autour du monde pendant 6 mois. Donc c'était une manière de découvrir le monde. Et puis en faisant certains reportages, ça me permettait de voyager et puis d'offrir un produit fini. C'est-à-dire que j'étais journaliste et photographe. J'ai fait une école de photographe. Donc je me suis rendu compte à l'époque de la presse écrite que c'était important de proposer un papier avec des illustrations. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai fait une école de photographe. J'avais une petite idée derrière la tête en me disant peut-être vers 35 ans, je vais en faire ce métier. C'est arrivé un petit peu plus vite. J'ai fait l'école de journaliste à l'âge de 28 ans.
Ok, d'accord. Et comment êtes-vous devenu journaliste?
Ouais, c'est beaucoup, beaucoup du hasard. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la photo m'a permis de mettre le pied dans ce monde de la presse. Et puis, je proposais des papiers. Et puis, plusieurs fois, on m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je voyage. Des fois, j'étais pas atteignable, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de portable, bien sûr. Et puis, je partais pour 4-5 mois, j'étais inatteignable. Donc, on m'a dit, il faudrait que tu te fixes un petit peu. Tu as bientôt 27, 28 ans. Alors, il faudrait faire l'école journaliste. Et puis, l'école journaliste, je voulais pas la faire, et je voulais la faire en freelance. Donc à l'époque, c'était pas possible. Et par chance et par sympathie, parce que peut-être certaines personnes pensaient que j'étais fait pour ce métier. On m'a dit, ok, on te paye la moitié de l'école journaliste et maintenant, pendant 2 ans, tu vas travailler que pour nous. Tu nous signes un contrat d'exclusivité. Tu travailles pas pour d'autres journaux parce que quand t'es freelance, bah, tu dois gagner ta vie. Donc, tu proposes des papiers. À l'époque, c'était la Suisse, la Tribune de Genève, le Sport à Zurich, l'équipe à Paris. Et maintenant, tu travailles que pour nous. Et c'est un aiguillage que j'ai dû prendre. J'ai beaucoup réfléchi. J'avais l'impression qu'on allait me priver de liberté. Puis finalement, non. Ça m'a permis de voyager toujours autant, et de travailler, de découvrir des continents et des gens que je ne connaissais pas. Donc c'était vraiment très enrichissant, oui.
Donc en fait, vous dites qu'avant, vous faisiez des photos et vous les montrez à des radios? C'est un peu ça, si je comprends bien.
À des journaux.
Ouais, à des journaux.
À des journaux, non.
Ah, okay.
Je faisais des textes, et puis on me disait, oui, ça c'est intéressant, mais il faudrait qu'on envoie un photographe, ça va coûter cher. Alors j'ai dit, mais j'ai fait une école de photographe en disant, bah, maintenant je vais proposer texte et photo. Donc il n'y avait que pour une personne des frais de déplacement. Donc à l'époque, bah, bien sûr, les rédacteurs en chef avaient un budget à tenir. Donc le fait d'avoir été journaliste et photographe et de proposer un produit fini, texte et photo, ça m'a permis de faire des reportages que si je n'avais été que journaliste ou que photographe, je les aurais pas fait.
Ok, merci.
Du coup, pour la question 3... Vous n'avez jamais regretté de faire ce métier?
Ah non, jamais, jamais. Alors des fois, c'est stressant, surtout dans le monde de la télévision. Moi, je suis un amoureux de l'écriture. Donc, quand je suis passé à la TV, j'ai gardé pendant 8 ans une activité dans la presse écrite. Mais des fois, on est stressé. Et puis, chaque fois que tu passes tu fais 3 heures de direct, c'est chaque fois un examen. Parce qu'après la retransmission, le lundi ou le mardi, quand tu rentres de ton reportage, ben, c'est un examen. Et puis, le chef te dit ça a été. Alors, c'est vrai que c'est beaucoup de stress. Mais moi, le stress, ça me motive. Je suis quelqu'un qui a plus d'inspiration quand je suis stressé. Donc, non, j'ai jamais regretté d'avoir choisi ce métier, non.
Du coup, le matin, vous n'êtes jamais dit « j'ai pas envie d'aller au travail ».
Ah, certaines fois. Mais comme tout le monde, je crois, dans tous les métiers, non, mais c'est pas arrivé souvent. C'est vrai, c'est pas arrivé souvent.
Okay.
Et depuis vos débuts, pourriez-vous nous parler de l'évolution de ce métier?
Alors, dans le monde de la presse écrite, moi, j'ai commencé, c'était encore les typographes avec le plomb, les rotatives. À minuit, il y avait un signal rouge qui clignotait, ça voulait dire que les rotatives étaient prêtes à tourner. On avait relu les pages mais à l'envers, parce que c'était du plomb, il y avait une odeur, les typographes avaient des tablis en cuir, c'était certainement très nocif. Donc j'ai connu cette période après la photocomposition, après les rotatives qui n'étaient pas dans les lieux où on fabriquait le journal, elles étaient à quelques kilomètres, c'était à l'avenue de la gare à Lausanne, la rédaction, et à Bussigny-Renan, les rotatives. Et puis après, dans le domaine de la TV, quand j'ai commencé à la TV, les premiers reportages, j'ai dû les faire en 78-79, il y avait du film, donc on allait tourner un match de foot, on disait au caméraman « tourne, tourne, tourne », et quand l'action pouvait être dangereuse et déboucher sur un but, le caméraman filmait. Des fois, il ratait des buts. Et puis, on rentrait en voiture ou en hélicoptère, on développait les films, ça prenait une heure. Après, on coupait, c'était notre télévision. Après, il y a eu la vidéo, après, il y a eu le HD. C'est vrai qu'on... J'ai connu le virage énorme de la presse écrite qui a passé du plomb à la photocomposition et j'ai passé à la TV, du film à la HD. Donc en 10 ans, le métier a complètement changé. Et maintenant, les journalistes TV, mais ça c'est quelque chose que j'aimais bien, on fait nous-mêmes les montages, on choisit les images. Et maintenant, il y a des GRI, journalistes reportage d'images, ils font l'image, ils font le montage, le commentaire. C'est un travail qui est très difficile. Parce que, bon, heureusement, les caméras à l'époque, quand j'ai commencé, les caméras, elles pesaient quasiment 20 kilos, donc des caméras à l'épaule, plus l'enregistreur avec les grosses bandes de son. Donc maintenant, ça a changé. Donc on a des petites caméras de 3, 4 kilos et puis on peut faire autre chose. Mais le métier a terriblement changé en très peu de temps, oui.
Et vous préférez la radio à l'époque ou la radio de maintenant ?
Mais j'ai tout aimé les époques, j'ai aimé la presse avec la photocomposition, mais aussi avec le plomb, parce qu'il y avait une ambiance, parce que tout le monde était solidaire, il y avait les correcteurs qui étaient là. À la TV, c'était bien, parce qu'au début, il y avait plus de budget, donc on avait un producteur, on avait un réalisateur pour les sujets qui dépassaient 4-5 minutes, il y avait un caméraman, un preneur de son... Des fois, il y avait presque même un chauffeur pour la voiture quand on se déplaçait avec beaucoup de matériel, avec un break. Puis après, on a eu fait des choses tout seul, des petits reportages de 3-4 minutes avec une petite caméra, le montage nous-mêmes. Mais moi, j'aimais bien cet esprit d'équipe, parce que j'aime bien partager les choses. Et je pense que j'ai beaucoup apprécié à l'époque où tu expliques aux caméramans, certains ne voulaient rien savoir, mais d'autres, ce que je voulais montrer, qui allait interviewer dans la voiture, on discutait, puis ils donnaient des idées, c'était un échange. Puis après, on arrive au montage, pour 4 minutes, c'est une journée de travail de montage, donc on dit au monteur qui était vraiment spécialisé, qui était que monteur, voilà ce que j'aimerais montrer, voilà, on va prendre les interviews, on va écouter ce que la personne que j'ai interviewé aimerait faire passer un message, moi aussi j'aimerais faire passer un message, qu'est-ce que t'en penses? Et il y a le réalisateur qui était là, on prenait beaucoup de temps, des fois le résultat était génial, puis des fois c'est pas ce qu'on voulait, mais c'était un autre regard, le regard du réalisateur ou du monteur qui nous amenait peut-être sur d'autres voies, et puis c'était assez génial. Maintenant, quand on part avec sa petite caméra, on a une idée bien précise, puis on n'évolue pas trop, alors des fois c'est mieux, des fois c'est moins bien, c'était différent, j'aime pas comparer les époques, c'était différent, mais c'était bien.
Ok, merci.
Et maintenant, on va vous faire écouter un petit son et on va en discuter après.
Comme un petit champion du monde, yes! Magnifique, Tom Tom! Il a fait une course qu'il fallait faire, une course de tous les dangers!
Oh, ouais, c'est son! Magnifique!
Pour les auditeurs, pouvez-vous raconter cet événement? Quel était votre sentiment à ce moment-là?
Alors, Thomas Lutis, un garçon que c'était presque comme mon fils, un copain, c'était très particulier. Je l'ai découvert quand il était deux fois champion suisse de pocket bike, ces petites motos avec lesquelles les jeunes font des compétitions depuis l'âge de 7-8 ans, je ne sais plus exactement. Et je l'ai découvert et je lui ai permis de trouver son premier sponsor qui était Blue Wind. Parce que je connaissais quelqu'un qui travaillait au marketing chez Blue Wind, et puis elle cherchait à investir dans le sport. Alors j'avais dit, moi je m'occupais aussi de snowboard, Uli Kestenholz, Jan Simon, ils vont aux Jeux Olympiques, mais le Blue Wind n'était pas inscrit dans les sponsors du comité olympique, donc il n'y a pas eu de retombée. Et puis j'ai dit, mais t'inquiète pas, elle s'appelait Carole, j'ai dit, t'inquiète pas, ils font l'extrême de Verbier, on va les voir, mais sur la face nord de Verbier, on voyait pas leur publicité. Et puis elle m'a dit, là, mon chef est pas très d'accord, pleinement d'accord sur l'argent qu'on a investi, on s'est un peu planté. Puis j'ai dit, mais écoute, il y a un petit Suisse qui arrive, là, il va rouler en Grand Prix, il en a déjà fait deux, franchement, il est bien, il a une bonne image, il est sympa, il n'a pas la grosse tête. Je pense que ça serait une bonne image et c'était le début de l'Internet. Donc Bluewind correspondait tout à fait dans le marketing à cette fenêtre du créneau qu'il fallait intéresser les jeunes. Les jeunes, et Bluewind a investi et ils lui ont payé les deux premières saisons. Et 4 ans plus tard, il était champion du monde.
Donc on peut dire que c'est un peu grâce à vous que Thomas Schutti a été...
Pas grâce à moi, grâce à son talent d'abord, grâce à son abnégation, mais grâce à plein d'autres personnes qui ont joué le jeu, qui ont cru. Donc quand son manager Daniel Epp, qui faisait la structure, qui était propriétaire du team et qui gérait les budgets, me dit, écoute, ça a bien joué, c'est un chiffre, on a un bon budget là, en montant à 6 chiffres, on te doit combien? Je dis, mais quoi, vous me dites rien, juste merci. Il me dit, non, mais c'est 10-15%. J'ai dit vis-à-vis de la TV, je pense que j'aurais pas le droit de faire ça et je veux rien, simplement j'ai dit en rigolant, bah, vous me devez un titre de champion du monde. Et 4 ans plus tard, il est champion du monde et on va faire l'interview, on fait un duplex avec la TV et Daniel Epp, il me dit, je te dois plus rien alors. Puis je dis, tu pars de quoi? Puis il me dit, mais on vous avait promis un titre de champion du monde. Donc Thomas Schutti s'est mis à pleurer, Daniel Epp s'est mis à pleurer. Puis moi, je me suis mis à pleurer, mais c'est un moment incroyable. C'est comme, les gens ne se rendent pas compte, c'est comme si l'équipe de Suisse de foot était championne du monde, mais sans avoir de terrain de football à disposition dans le territoire suisse. Parce que tous ces petits jeunes qui veulent aller rouler, qui veulent apprendre le métier dans des championnats nationaux, ils doivent aller en Italie, ils doivent aller en Allemagne, ils doivent aller en France, en Espagne. Donc être un pilote suisse champion du monde, moi, dans mes rêves les plus fous, j'avais jamais imaginé que c'était possible. Et c'est arrivé en 2005, donc il y a eu beaucoup d'émotions qui est ressorties, c'est clair.
Ok, merci. Du coup, on va faire l'interview en 2 parties. Là, on a fait la première partie. Du coup, on va écouter une petite musique et on se retrouve juste après. Donc on écoute Marshmello, Happier.
Lately, I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier when the morning...
C'était Marshmello à Pierre, de retour sur Radio Cactus avec Bernard Jonzy, un ancien journaliste sportif, pour une deuxième partie d'interview. Donc pendant combien de temps avez-vous travaillé à la RTS?
Alors 33, le médecin dit 33, j'ai travaillé 33 ans à la RTS, TSR, ex-TSR, oui.
Ok, et vous avez commencé directement à la RTS ou au début vous avez commencé avec des plus petites radios?
Non, j'ai commencé, j'ai fait quelques émissions radio sur la première, ce qu'on appelait à l'époque Radio Sautant, je crois, mais c'était la première. Donc j'ai fait quelques petits magazines sur le sport, sur les infos. Donc j'étais curieux. Donc la presse écrite, la photo, c'était bien, mais j'avais envie de découvrir d'autres domaines. J'ai proposé 2-3 petits sujets, et puis j'ai fait un test de voix, puis on m'a dit j'étais pas bon du tout à l'époque parce qu'il n'y avait pas de formation. Donc souvent les journalistes de la radio et de la TV venaient de la presse écrite, mais le langage parlé ou le langage écrit, c'est pas du tout pareil. Je pense que si je me réécoutais aujourd'hui, j'aurais un petit peu honte, mais on nous lançait dans le bain. T'avais un peu de talent, t'avais du potentiel, on disait bon, c'est bon, tu vas t'améliorer, t'inquiète pas. Donc c'était une autre époque.
Ok.
Et si vous deviez donner 1 ou 2 conseils aux jeunes qui s'intéressent à ce métier, ce serait quoi?
Je crois qu'il faut être motivé par la passion, avoir envie, et vraiment... quand on est journaliste, on pense 100% journaliste, on voit quelque chose de nouveau, on dit ah ben ça pourrait être un reportage, cette personne-là il est génial, on le connaît pas, est-ce qu'on pourrait pas le faire connaître, est-ce qu'on pourrait pas faire un reportage? Donc je pense qu'il faut être curieux de tout, et moi des fois on m'a demandé une fois, moi je suis plutôt antimilitariste, Boris Acquadro qui était le pionnier de la TV suisse dans le domaine du sport, m'a dit écoute, cette année aux Jeux Olympiques, moi j'ai d'autres fonctions, je peux pas commenter le biathlon. Je dis, oh, le biathlon, maintenant, des gars qui font du ski de fond avec un fusil, moi qui suis anti-militariste, il m'a dit, mais tu verras, c'est génial, je me suis investi, c'était un domaine que je connaissais pas du tout, et j'ai rencontré des sportifs qui étaient des purs, des durs, qui gagnaient pas leur vie, mais c'était leur passion, et j'ai commenté 4 épreuves aux Jeux Olympiques de Lillehammer de biathlon, et j'ai trouvé ça génial. Donc, c'est vrai que des fois, faut être très curieux, puis faut pas avoir de barrières en se disant, bon, ok, ce domaine, je connais pas, mais je pars sans a priori et je vais découvrir ça. Si c'est pas bien, mais je le dirai, je dirai pourquoi, parce qu'on peut ne pas aimer forcément un reportage sur lequel on va faire, mais on doit être objectif. Donc c'est important d'être objectif, mais il faut être, je crois, curieux. Moi, pour moi, la curiosité, c'est une qualité, ce n'est pas un défaut dans ce domaine là bien sûr.
Et quelle qualité faut-il avoir pour ce métier?
Curieux. curieux. 3 qualités. Curieux.
Ok.
Objectif, bien sûr. Ouais.
Et on entend souvent dire que les commentateurs sportifs suisses font preuve d'une certaine retenue au micro, même dans des situations où l'émotionnel devrait humainement prendre le dessus, contrairement aux commentateurs sportifs d'autres pays, comme le Brésil ou l'Italie, par exemple. Que pensez-vous de ça ?
Je suis tout à fait d'accord avec ce genre de remarques. Je trouve qu'on est un petit peu, si je peux m'exprimer ainsi, on est un petit peu des pisse froids. Parce qu'il faut... Boris Accadro, qui venait de l'ancienne génération, mais c'est lui qui m'a formé à la TV, c'était vraiment un pionnier du sport, en tout cas au niveau même européen. Donc il disait, faites partager votre passion. Si vous aimez quelqu'un, si vous n'êtes peut-être pas objectif ou vous parlez plus d'un sportif que l'autre, dites pourquoi. Dites parce qu'il a galéré, parce qu'il est arrivé à ce niveau-là, parce qu'il est parti de rien. Donc... il faut être objectif, ça c'est clair, mais si on a un petit peu plus de passion pour une équipe ou pour un sportif, bon, on dit pourquoi, puis je crois que les gens arrivent à le comprendre. Et maintenant, avec le nouveau chef, la Massimo Lorenzi, tout le monde doit être sorti du même moule. Moi, je trouve que c'est une erreur. Avant, il y avait Jean-Jacques Tillman, il y avait Dubout, il y avait des voix, des personnalités, des manières de s'exprimer. Et il y avait le conteur, il y avait le narrateur, il y avait le fou, il y avait le passionné. Chacun avait notre personnalité, des fois avec certains excès, c'est vrai. Mais des fois, je me réécoutais parce que je me suis toujours écouté pour essayer de progresser. C'était un conseil que m'avait donné Boris Accadro. Puis là, j'ai dépassé les limites. Donc, la fois d'après, j'essayais de me calmer un petit peu. Puis des fois, quand c'était vraiment un moment extraordinaire, ben, je me laissais un petit peu aller. Mais on arrive à trouver un juste niveau. Et je pense que les gens appréciaient que chaque journaliste ait sa personnalité et s'exprime de manière un petit peu différente, avec beaucoup d'enthousiasme, avec, par exemple, Tillman. C'était toujours le même ton, mais c'était un narrateur. Il racontait plein d'histoires qui étaient passionnantes. Il décrivait pas forcément ce qu'on voyait sur l'écran. Il apportait une valeur ajoutée. Là, maintenant, j'ai l'impression qu'ils font tous pareil.
Ok, merci.
Si vous deviez choisir le plus beau moment ou la plus belle rencontre de toute votre carrière, ce serait laquelle ?
Alors, le titre de Thomas Lutti, c'est un truc que j'aurais jamais imaginé, même dans les rêves les plus fous. Et puis, la première victoire de Jacques Cornu. Parce que Jacques Cornu, j'ai eu fait des courses avec lui en championnat de Suisse. Lui, il était très doué. Il était grand. Il mesurait 1m88. Il avait une petite moto de 250 cm3. Avec son poids, son aérodynamisme, on pensait que c'était impossible qu'un jour il gagne un grand prix. Moi, je l'ai beaucoup aidé en lui faisant rencontrer des sponsors. Il a pu, c'était quelqu'un que le système D, il connaissait bien. Il a fait des sacrifice énorme. Et le jour où il a gagné son premier Grand Prix à Salzbourg en 1982, c'était un moment magique. Et Boris m'a écouté. Là, je m'étais déjà un petit peu importé. Il m'a dit, c'est génial, mais on va faire une unilatérale, c'est-à-dire juste après la course, tu descends de ta cabine, les équipes en courant. On donne un micro et Jacques Cornu était transpirant et c'était un gars qui arrêtait pas de faire des plaisanteries. Et je le vois ému et il se met à... Il y a quelques larmes qu'on coulait. Et moi, j'ai retenu ma voix, mais j'avais la voix tremblonnante. Je me suis forcé à ne pas pleurer. Et puis après, je téléphone à Boris. J'ai dit, mais écoutez, vous voyez, je n'ai pas été bon. Là, les questions n'étaient pas bonnes. Non, mais c'est génial. On a senti votre passion. On a senti votre émotion. C'était génial. Donc là, peut-être qu'aujourd'hui, Massimo disait, ouais, c'était nul, il faut refaire l'interview. Là, on a laissé passer des émotions et je trouve que c'était quand même assez bien, même s'il y avait des défauts dans les questions posées.
Donc Thomas Lutti, en fait, vous le connaissiez vraiment bien ?
Oui. Moi, je skie avec lui de temps en temps. Donc cette année, il a connu une saison passée un petit peu difficile. Donc il a pu faire du ski que 5 fois par année. Mais c'est un mec hors norme qui est sympa. Il va souvent skier à Verbier. Moi, j'ai fait connaître des gens. Il a trouvé un petit sponsor personnel d'une maison de Verbier. Donc il est accueilli. Il a un nouveau téléski qui est à son nom. Colombin Lutti, il le partage avec Roland Colombin. Et puis c'est un gars qui est très disponible, qui est très sympa, qui parle très bien français parce qu'il a travaillé quand même 3 ans dans un team où il y avait beaucoup de français. Donc il parle italien, allemand, français et suisse-allemand.
Il est bilingue en fait.
Ouais, trilingue, oui.
Trilingue, ouais. Bon, malheureusement, c'est déjà la fin de cette interview.
Dommage.
Ouais, dommage. Ouais. On a apprécié vos interviews, vous avez eu du plaisir.
Énormément, et puis je trouve que les questions étaient sympas et votre studio est magnifique. J'espère que ça vous donnera l'envie de faire ce métier.
Oui, bien sûr.